Cause à effet, le magazine de l'environnement.
J'ai perdu mon grand-père, mon beau-frère, deux cousins, cinq membres de ma famille sont morts de cancer. Si nous avions gagné plus tôt, on aurait pu les soigner avant qu'il ne soit trop tard.
C'est l'histoire d'un scandale qui a fait des victimes et qui continue de hanter la vie et la mémoire de citoyens en Équateur. Pendant plus de 20 ans, de 1967 à 1993, la compagnie pétrolière Texaco a exploité, sans respect de l'environnement et de la santé des habitants, l'or noir en Amazonie équatorienne. Ces pétroliers américains ont laissé derrière eux une terre dévastée. Il s'agirait là, selon les spécialistes, de l'un des pires massacres écologiques jamais perpétrés. À la tête de 30 000 paysans d'Amazonie, l'avocat Pablo Faraldo, lui-même ancien ouvrier de Chevron Texaco, est parti en justice avec d'autres avocats afin d'obtenir gain de cause et réparation. Dans cette histoire de David contre Goliath, en 2011, la justice équatorienne a condamné Chevron à payer une amende record de 9 milliards de dollars de réparation et autant de dommages et intérêts. Du jamais vu, mais depuis, Chevron refuse de payer l'amende. Ce procès qui dure depuis 25 ans serait-il emblématique d'une certaine impunité des multinationales ? Le combat, en tout cas, n'est pas fini pour vous, Pablo Faraldo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, désormais mondialement connu, surnommé le David de l'Amazonie. Merci d'être avec nous sur France Culture. Et à vos côtés, l'interprète Pascal Fougère. Avec nous également, la journaliste Sophie Tardy-Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Avec Pablo Faraldo et Damien Roudot, vous avez commis la BD Texaco et pourtant nous vaincrons, tout juste édité aux arènes. Et enfin, à vos côtés, Simon Roger. Bonjour.
Bonjour.
Bien connu de notre antenne, de nos plateau, rédacteur en chef des pages Planète Science du journal Le Monde, notre partenaire. Et avec vous, Simon, et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, nous allons plonger dans cette affaire que vous connaissez bien tous, pour y être allés aussi sur place. Et nous allons plonger dans l'actualité de l'affaire Texaco-Chevron, prendre la mesure de l'étendue du drame environnemental qui touche ce secteur de l'Amazonie. L'émission est toujours préparée par Anaï Morales, avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Pierrick Monsigny. Bonjour à tous et bienvenue.
Nous devons défendre notre terre et nous n'allons pas laisser s'installer les pétroliers pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour cette terre dont j'ai déjà parlé. Ensuite, à cause de la destruction sociale qui vient avec eux. La société se divise à cause de l'argent. Parce que tous ceux qui vivent ici n'auront pas forcément un travail et un salaire. Ça ne marche pas comme ça. Alors il y aura les dirigeants bien placés et toute la communauté qui leur reprochera de capter tout l'argent sans rien laisser. Et alors notre vie faite d'harmonie disparaîtra aussi. Et un avenir comme ça, nous n'en voulons pas. Comme je dis, comme nous disons, le plus important, c'est la terre. Elle nous fait vivre. C'est notre mère nourricière. L'eau, c'est pareil. Que voulez-vous faire avec de l'eau polluée ?
C'était la parole d'Indien Sarayaku diffusée dans l'émission Hors Circuit sur France Inter. C'était le 1er septembre 2013. La voix de ces peuples qui sont dans cette Amazonie mise à mal. Pablo Faraldo, à quel moment découvrez-vous cette terre d'Amazonie avec ces peuples autochtones et où un drame écologique est en gestation?
D'abord,
merci de m'avoir invité et de me donner un espace. Je n'aime pas d'abord cette comparaison David contre Goliath, parce que dans mon cas, on est un collectif, différentes personnes qui viennent des peuples indigènes et on essaye d'avancer, parce que nous luttons tous ensemble et nous sommes ensemble. Alors, je suis arrivée dans cette Amazonie qui est au nord de l'Équateur dans les années 80. Et quand je suis arrivée dans cette zone, la première chose qu'on y trouvait, bien sûr, c'était une pollution environnementale incroyable. Les chemins, les routes étaient complètement couverts de pétrole. Et tous les deux ou trois mois, hein, il y avait un camion qui venait en fait hein, se décharger sur les routes pour éviter qu'il y ait de la poussière. Et toute l'eau intoxiqués étaient redéversés dans les rivières et à côté de chaque puits, il y avait des espèces de piscines en fait qui avaient été construites, quatre ou cinq à chaque fois, et toutes ces piscines allaient toujours en direction soit d'un étang, soit d'une rivière. Et en plus, dans chacune de ces piscines, il y avait un espèce de tuyau hein, qui faisait que les eaux toxiques allaient vers les rivières. Tous les lieux d'extraction étaient comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que, effectivement, les dommages que Texaco, donc autrefois Chevron, a causé à cette région du monde, hein, ont été tout à fait intentionnels. Hein, et ils ne sont pas le résultat d'un accident. Hein. Le plus grave de cela, c'est que Chevron n'a jamais voulu reconnaître que là vivaient des peuples indigènes qui étaient sur ces terres depuis des millénaires. Et c'est indigènes ont bien sûr été totalement non respectés par rapport à leur vie, par rapport à leur culture. Hein. Ces gens qui vivaient traditionnellement de ce que effectivement la jungle leur donnait. Ils disent que la jungle, c'est notre hôpital, notre université, notre marché. Hein. Et dans cette jungle, nous trouvons tout. Mais aujourd'hui, ce marché, cette université, cet hôpital, évidemment, ne fonctionne plus. Il n'y a plus les ressources qu'il y avait avant. Et évidemment, c'est la faute de Chevron qui a été vraiment responsable de la rupture, en fait, de ce lien entre les populations indigènes et la forêt, en fait. Donc, il y a eu aussi, évidemment, une grande augmentation du nombre de cancers. Il y a une véritable catastrophe environnementale, humaine, sociale. Et il y a effectivement ces cancers, mais en plus, on ne peut pas avoir des responsables désignés. C'est-à-dire que Chevron a été désigné légalement après un procès comme responsable, mais ils ne le reconnaissent pas. Et je dis toujours, il faut faire une différence entre cette catastrophe-là et celle de l'Exxon Valdez, ou de l'Erika, qui ont été des désastres causés par des accidents. Et là, il ne s'agit pas d'accident, il s'agit d'une volonté, en fait.
Alors, peut-être précision quand même, parce que ça donne la mesure de la pollution en question, Pablo Faraldo. Vous parlez de l'Exxon Valdez. Ce qui se passe là, dans votre secteur, en Amazonie, c'est 30 fois la marée noire due au naufrage de l'Exxon Valdez. Donc, en Alaska, c'était en 1986. Et c'est 3000 fois celle de l'Erika en 1999. Voilà, ça permet de prendre un peu la mesure de la pollution sur place. Simon Roger.
Non, je voulais juste ajouter un élément de décor, même si Pablo est évidemment beaucoup mieux placé que moi et décrirait mille fois mieux que moi ou que Sophie qui a été aussi sur place l'endroit où on se trouve. On est donc en Amazonie équatorienne, donc c'est une des régions les plus où la biodiversité est la plus foisonnante sur la planète. On est donc en pleine forêt. Je crois même que dans la BD, on raconte que Pablo aime se balader dans la forêt pour se ressourcer. Donc ce qui a été fait pendant des années par Chevron Texaco dans cette région-là, c'est dans un endroit où précisément le bassin hydrographique est très 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 étendu. Donc je veux dire, ce que Pablo raconte, c'est-à-dire le fait de contaminer à travers des bassins qui sont en fait des bassins de décantation du pétrole et de contaminer tout le réseau hydrographique, c'est destructeur, totalement meurtrier, puisque évidemment ces particules, ces métaux lourds vont ensuite se retrouver dans la nappe phréatique, dans les eaux, et malheureusement vont contaminer dans un deuxième temps les populations locales.
Sophie Tardy-Joubert, on se rend compte que finalement ces conditions d'exploitation se sont faites sans contrôle. Ça pose quand même la question forcément de la responsabilité du pouvoir politique de l'époque.
Oui, ben, visiblement, à cette époque-là, en tout cas, l'Équateur était dirigé par différents présidents qui étaient un peu à la solde des États-Unis. Donc, ils n'ont effectivement, ils ne se sont pas opposés du tout à ça, voire même au contraire, ils ont accompagné, en fait, l'exploitation pétrolière de Chevron. Ils ont laissé faire. Enfin, voilà, on le montre dans la bande dessinée.
Ils ont octroyé une concession pour 25 ans, mais sans contrôle, sans respect de la nature. C'était pas le propos, quoi.
Non, c'était pas le propos. Et visiblement, c'est des personnes qui se fréquentaient. Enfin, les dirigeantes de Texaco à cette époque-là et les hommes politiques équatoriens fréquentaient les mêmes endroits. Voilà, se connaissaient. Donc, il y avait une forme de lobby aussi qui empêchait probablement que ce soit contrôlé.
Et donc, ce secteur, vous l'avez bien sûr arpenté vous-même.
Oui, j'ai été deux fois avec Pablo sur les lieux. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on a effectivement l'image de l'Amazonie, du poumon de la planète, voilà, de la nature luxuriante et tout. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu, c'est quand même, c'est un peu ça, parce que c'est une belle forêt, mais on voit aussi quand même énormément le pétrole dans cette zone-là. On voit les espèces de brûleurs de gaz qui sont immenses. Et puis surtout, on voit les fosses de pétrole. Et ça, c'est vraiment très impressionnant parce que c'est des, on dit dans la bande dessinée que c'est des lacs noirs. Il faut imaginer des fosses de la taille de piscines olympiques qui sont encore aujourd'hui remplies de pétrole à ciel ouvert. Enfin, voilà, moi, j'avais évidemment jamais vu ça avant. Donc, la nature a un peu repris ses droits et c'est un petit peu recouvert de fougères, de végétation.
Mais c'est toujours.
Mais on marche quand même sur du pétrole, sur des.
Si je peux
aller, et des mètres.
Si je peux juste compléter quelque chose, effectivement, je suis d'accord avec que c'est une forêt qui est à la fois luxuriante et malmenée, hein, avec les torchères qui. Et puis, de toute façon, on voit les dégâts, y compris aussi la déforestation, parce qu'il y a d'autres activités industrielles extractives qui causent une déforestation massive. Moi, l'une des images que je garde, c'est. Parce que j'imagine qu'on va en parler, il y a un procès, il y a un long procès, où on parlait de 25 ans de procès depuis 93. Ce qu'on voit aussi en arpentant la forêt, c'est des zones délimitées par des rubans, comme sur des scènes de crime, qui sont des pièces à conviction pour le procès. C'est-à-dire que beaucoup de ces piscines de pétrole dont parle Pablo n'ont pas été décontaminées. Certaines l'ont été, mais pas toutes, parce que c'est précisément des pièces à conviction dans ce long et douloureux procès intenté contre Chevron Texaco.
Alors, on va écouter justement sur cette question des piscines un extrait d'un reportage diffusé sur France Inter le 21 février 2011. L'interview de Alfonso Dureño, habitant sur place. Et on entendra aussi la parole de James Craig, le porte-parole de Chevron Texaco.
Partenaire minoritaire de la compagnie nationale équatorienne, Chevron Texaco affirme avoir nettoyé les piscines qui lui correspondaient. Sur le terrain, les souvenirs d'habitants comme Alfonso Dureño sont pourtant différents.
Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas nettoyé la piscine, mais elle est toujours là.
Qui a bouché la piscine ?
Chevron aujourd'hui.
Vous les avez vus, vous êtes sûr ?
Je suis sûr, nous on vivait à côté de la station.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont pris un bulldozer, ils ont simplement mis de la terre et des arbres.
Chevron ayant quitté le pays au début des années 90, les plaignants souhaitent obtenir l'embargo de biens de Chevron à l'étranger. Une nouvelle bataille juridique à l'horizon, James Craig.
Nous allons faire appel et combattre cette sentence pendant des années s'il le faut. D'abord en Équateur, puis dans n'importe quelle cour où ils essaieront de faire exécuter cette décision frauduleuse.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Pablo Faraldo, alors je sais que vous n'aimez pas cette expression, hein, le combat de David contre Goliath, mais pour beaucoup ça dit quand même les choses, hein, même si vous êtes bien sûr un des avocats représentants de ce collectif, et que finalement vous êtes puissant, parce que vous avez réussi, on va en parler, à obtenir des condamnations. Malgré tout, donc, on disait 25 ans de combat, et c'est pas fini. Donc face pour vous à une machine, hein, non seulement 2000 juristes, 60 cabinets d'avocats mobilisés par Texaco Chevron, et puis des méthodes, et notamment cette méthode, hein, ce maquillage de traces de pollution.
Il y a beaucoup de commentaires à faire, hein, et particulièrement on entendait Alfonso Ureña, et il y a une histoire intéressante avec cet homme. Sa femme, qui s'appelle Rosa Moreno, elle a travaillé pendant plus de 30 ans comme infirmière, en s'occupant de beaucoup de patients atteints de cancer de sa zone. Hein, et il y a 2 ans, elle est également décédée d'un cancer. Et nous avons créé en fait, deux unités de soins palliatifs, hein, pour nous occuper des patients dont les médecins ne peuvent plus s'occuper. Donc, on a donné le nom de cette femme, Rosa Moreno, à ces centres de soins palliatifs, parce qu'elle a lutté vraiment beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je dis qu'il y a des choses tout à fait qui doivent créer l'indignation, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute cette machinerie de Chevron, comme vous l'avez dit, ces armées d'avocats, d'experts qu'on retrouve dans le monde entier et qui, évidemment, hein, tout le travail qu'ils font, c'est d'essayer, bien sûr, de nettoyer ou blanchir, en fait, l'image de cette entreprise. Hein. Et je me souviens très bien d'avoir entendu ce que disait cet avocat. Il disait, on a investi 40 millions de dollars pour nettoyer la pollution amazonienne. Et en fait, ils ont dépensé plus de 2 000 milliers de dollars pour effectivement les différentes opérations. Et ils ont dépensé bien plus donc à nettoyer leur image qu'ils n'ont dépensé à essayer de nettoyer la zone contaminée. Ça montre bien à quel point pour eux la planète n'est pas importante, la vie n'est pas importante et les indigènes ne le sont pas davantage. Je me souviens d'une phrase que disait le responsable des avocats de Chevron, hein, et qui est dans ce film, ce documentaire qui s'appelle Crude. Donc il a dit devant le juge, l'Amazonie dans son ensemble est un lieu pour l'industrie du pétrole. En Amazonie ne devrait vivre aucun être humain. C'était littéralement ce qu'il a dit. Et évidemment, quand on entend ça, on se demande, mais qu'en est-il des peuples indigènes qui, depuis des millions d'années, vivent en fait sur ces terres? Est-ce que ces gens doivent être expulsés? Est-ce que, en disant ça, il dit que ces gens ne sont pas des êtres humains, voilà, qu'est-ce qui se passe?
Sophie Tardy-Joubert et Simon Roger, on peut réagir là sur ces méthodes, c'est-à-dire que je disais David contre Goliath, mais on se rend compte que c'est un combat effectivement qui est mené, qui a été mené, mais qui est encore mené. Un travail acharné d'avocats avec Pablo Faraldo, on peut citer Judith Kimmerling, Cristobal Boniface, Steven Danziger, voilà, question méthode.
Eh ben, en tant que journaliste, moi j'ai trouvé ça très difficile de m'emparer de ce sujet, enfin à la fois passionnant mais aussi difficile, parce qu'effectivement c'est un procès vraiment tentaculaire. Enfin, il y en a, je crois qu'il y a une dizaine de procès en cours au minimum en ce moment. Moi, je me suis concentrée sur les plus importants pour l'affaire, mais il y en a énormément en fait. Il y a d'une part le procès des plaignants contre Chevron, il y a aussi des procédures d'arbitrage entre l'État équatorien et Chevron. Donc, enfin, on a une masse en fait d'informations et c'est très difficile de s'y retrouver. Il faut vraiment s'accrocher et en même temps ça donne la mesure effectivement de la stratégie juridique déployée par Chevron. Et
donc vous racontez dans la BD notamment hein, ces questions aussi de corruption, de témoins achetés.
Oui, moi j'ai presque du mal à y croire dans un premier temps, mais effectivement on montre que en fait Chevron a contre-attaqué contre Pablo Faraldo et les plaignants en les accusant de crimes organisés pour extorquer de l'argent à une grande entreprise. Ils ont invoqué pour ça une loi qui normalement est conçue pour la mafia. Et leur argumentation reposait sur le témoignage en fait d'un juge véreux qu'ils ont soudoyé. Et effectivement, je raconte tout ça dans la bande dessinée. Alors, il faut savoir que, évidemment, moi, en tant que journaliste, je suis prudente, donc j'avance pas ce genre de choses gratuitement. Mais il y a un certain nombre d'éléments très factuels qui m'ont amené à pouvoir le dire. Notamment, il y a une déclaration de ce juge, Alberto Guerra, qui reconnaît dans un procès parallèle, du coup, dans un procès d'arbitrage entre Chevron et l'État équatorien, il dit « j'ai menti ». Voilà, j'ai été acheté par Chevron, il le confesse. Donc ça, moi, j'ai vu la retranscription de ce procès-là. Et il y a aussi un enregistrement que Pablo m'a fait écouter, qui était versé au dossier du procès Rico aux États-Unis, et où on l'entend converser en fait avec la personne de Chevron qui est censée le recruter.
Donc rappelons qu'en 2011, hein, Chevron est condamné par la Cour suprême d'Équateur à verser 9 milliards deux fois, hein, c'est-à-dire 18 milliards hein, de dollars. Chevron n'a rien versé pour l'heure, mais malgré justement tout ce que vous venez de nous présenter, Sophie Tardy-Joubert, les choses n'évoluent pas. Hein. C'est donc l'entreprise fait en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de saisir leur argent, leur richesse dans tous les pays du monde, c'est ça?
En fait, ils ont été condamnés en première instance à 9 milliards de dollars. Ça a été ramené en appel à 18, c'est pour ça qu'il y a ces deux chiffres qui circulent. Et en fait, ils ont effectivement retiré tout leur argent d'Équateur. Alors moi, ce que je trouve quand même particulièrement gonflé de leur part, c'est que c'est eux qui ont voulu que l'affaire soit jugée en Équateur. Parce qu'au départ, ça devait être jugé aux États-Unis. Et ils ont fait des pieds et des mains pour dire non, ça s'est passé en Équateur, il faut que ça soit jugé sur les lieux où voilà où ça s'est passé.
Mais parce qu'à l'époque, en plus, le gouvernement était pro
Chevron. Oui, ben voilà.
Voilà,
oui,
donc
oui.
Pour eux, c'était bénéfique.
Donc ils disaient, voilà, on va pouvoir tirer des ficelles et tout. Mmh. Après, le pouvoir a changé. Rafael Correa, qui est plutôt anti-américain, est arrivé au pouvoir. Donc la donne a changé. Ils l'avaient sans doute pas vu venir. Mais bon, une fois que le procès est arrivé à Lagoa Grillo, comme ils l'avaient demandé, ils ont dit non, on ne reconnaît pas cette justice, c'est un pays corrompu, voilà. Donc on ne reconnaît pas la condamnation, on retire notre argent et puis en fait on ne s'en soucie pas. Et après ce qui se passe, c'est que donc les plaignants ont essayé de faire reconnaître cette condamnation par d'autres cours de justice internationale, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de système de droit en fait international qui leur permette ça, parce qu'en gros ce que disent les cours de justice, elles disent nous on est compétents pour Chevron Canada, pour Chevron Brésil, pour Chevron Argentine, mais pas pour saisir les comptes de Chevron Corporation. Donc en fait, c'est un problème de division de l'entreprise en filiales qui fait qu'eux, ils ne peuvent pas avoir accès à la justice. Et c'est des débats qui sont en cours en ce moment. Enfin, ils essayent de faire un peu bouger les choses au niveau juridique international.
Simon Roger.
L'une des difficultés aussi, c'est que donc, Texaco a quitté, a arrêté ses activités. Donc je crois que c'est vers 93, en tout cas dans les années 90, et a revendu ses actifs et ses activités pétrolières aux compagnies nationales Petroéquador. Donc il y a en tout cas une alliance, je ne sais pas si elle est volontaire ou non, mais c'est assez compliqué de distinguer les choses. Et donc c'est aussi pour ça que l'un des enjeux de ce long procès, c'est d'arriver à demander aux pétroliers de rendre des comptes là où il est actif, c'est-à-dire aux États-Unis. Je crois qu'il y a aussi une action qui est intentée au Canada, oui, aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est un procès qui est vraiment tentaculaire. Et moi, si je pouvais poser une question à Pablo, je voudrais juste savoir justement là, on est en 2019, où on en est du procès, et quel est l'état du procès, quelles sont les chances d'avoir une indemnisation de ces plaignants qui ont démarré leur action donc il y a maintenant plus de 25 ans.
Pablo Faraldo.
Je dis toujours, on s'est battu 25 ans et on est toujours là. Je suis toujours là parce que je suis sûre qu'on va réussir à gagner. On va faire que Chevron paye. Et si je n'avais pas cette certitude-là, je ne serais pas là. Je serais avec ma famille peut-être. Mais je suis là parce que je crois à ça. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple parce que nous avons face à nous un opposant qui est très puissant, y compris bien plus puissant que plusieurs États réunis, mais nous sommes convaincus que ce n'est pas possible, en fait, que de telles injustices échappent à la justice pour toujours. Et on sait également, on est conscient qu'il y a un système d'injustice internationale, qu'il n'y a pas d'instruments juridiques aujourd'hui qui permettent d'agir au niveau transnational. On sait aussi qu'il n'y a pas une cour, en fait, internationale de justice qui permettrait de juger les multinationales, oui, pour les États et les personnes, mais pas pour les entreprises. Donc, la justice ne devrait pas s'opposer à ces crimes. Je disais avant, on s'est battu 25 ans, mais on va continuer à le faire tout le temps nécessaire. On croit à l'union, en fait, des peuples aussi. Et je crois que ce « nous » doit, d'une certaine manière, continuer à s'étendre. On doit trouver des alliés un peu partout. Il faut qu'on arrive à mondialiser cette lutte. Et il faut qu'on puisse s'associer avec d'autres personnes qui ont souffert des crimes des multinationales. Et il faut que ça soit clair dans notre esprit, en fait, que cette lutte, elle n'est pas seulement contre Chevron, c'est contre le système de l'impunité organisée des multinationales. Et c'est un système, bien sûr, qui nous empêche, en fait, d'accéder à la justice vraiment parce que les multinationales, elles se sentent menacées, Chevron se sent menacée, enfin Texaco. Et en tant qu'union des victimes de Texaco, on n'est pas contre les multinationales, on n'est pas contre les investissements, mais on est contre le crime que peuvent commettre ces multinationales contre les peuples indigènes, contre la nature, contre l'environnement. C'est pas la même chose.
Alors vous disiez que vous continuez et que c'est sûr que ce serait certainement plus facile d'être avec votre famille. Précisons justement pour nos auditeurs, pour bien comprendre un peu l'ampleur aussi de ce qui est votre quotidien, Pablo Faraldo, que vous n'avez pas pu élever ou vivre avec vos enfants qui sont élevés par des membres de la famille parce que vous êtes menacé et qu'il y avait des menaces qui pesaient sur votre famille.
Oui, c'est juste.
C'est
des choses dont j'aime pas beaucoup parler puisqu'elles sont très personnelles, très intimes. Et ça dure depuis 15 ans. Mais c'est vrai que cette cause, cette lutte a provoqué une rupture familiale. J'ai un frère qui a été assassiné. Et ma famille a dû se disperser parce qu'il y avait des menaces très très importantes. On a été persécutés, espionnés en 2014. Chevron a confessé aux États-Unis qu'ils avaient eu 4 entreprises qui étaient chargées de faire de l'espionnage, y compris l'entreprise Crown, qui est la plus grande entreprise d'espionnage, et ils avaient 150 30 espions qui travaillaient rien qu'en Équateur sur nous. Hein. Donc ça vous donne l'ampleur de la chose hein, et le niveau de pression et de persécution par lesquelles on est passé. Mais je crois en Dieu profondément et je crois qu'il y a une force dans l'union des peuples et qu'il y a aussi une force dans la jungle. Tout ça c'est très important et ça va nous aider dans notre lutte.
On peut penser à Steven Donziger hein, qui a été harcelé, espionné, diabolisé et qui subit lui un sort aux États-Unis qui est aussi lourd à endurer.
Sí, evidentemente, et quizás tiene la mala suerte d'être radicado en Estados Unidos.
Évidemment, hein, peut-être qu'il a la malchance en fait d'être basé aux États-Unis, hein, et donc comme il est aux États-Unis, bien sûr, il est l'objet de bien plus de persécutions et de procès. C'est des choses qui arrivent, mais je crois qu'il y a différentes formes de persécution des gens. Et je crois que dans notre cas à nous, ce qui est le plus douloureux, c'est de voir comment les gens continuent à mourir. La semaine dernière, chaque jour, pendant 11 jours consécutifs, dans cette zone, quelqu'un est décédé du cancer. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement douloureuses. Et d'une certaine manière, la persécution, c'est quelque chose qui reste assez petit par rapport aux gens qui meurent.
Simon Roger, quand on entend ce témoignage, on pense aussi à la grande enquête hein, qui a été publiée en septembre, hein, si je ne m'abuse, 2018, dans Le Monde, qu'on trouve toujours sur le site, et qui référençait tous ces lieux pollués irréversiblement par souvent des grandes compagnies, avec les cancers, avec les taux de mortalité. Et aujourd'hui, on arrive, il y a des spécialistes ou des médecins ou des personnes qui ont tenu cette comptabilité, et aujourd'hui, ça sert de preuve.
Ça sert de preuve, mais c'est pas forcément suffisant. Moi, j'ai eu la chance, même si l'endroit est à la fois un très bel endroit, et aussi totalement contaminé, donc d'aller dans le grand nord du Canada, où là la problématique est aussi une problématique des hydrocarbures, mais cette fois-ci du pétrole issu des sables bitumineux. Donc dans un petit village qui s'appelle Fort Chipewyan, qui est un petit village donc peuplé de peuples natifs, on a cette problématique, on a des études épidémiologiques qui sont en cours et qui sont bloquées soit par les autorités sanitaires canadiennes, soit fédérales, etc. Donc la quête de la vérité est quand même compliquée à trouver, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Je voulais juste aussi d'ailleurs faire un petit parallèle et surtout poser une question à Pablo puisqu'il est avec nous aujourd'hui. Ce que j'ai un peu ressenti, ce que me disaient d'ailleurs des gens aussi sur place, ils me parlaient un peu de sorte de schizophrénie au Canada et c'est peut-être aussi le cas d'ailleurs en Équateur, de ces populations qui sont totalement coincées, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois victimes, totalement victimes de ces contaminations qui sont à la fois invisibles mais très pérennes puisque c'est les mêmes vecteurs, c'est la contamination des sols, de la chaîne alimentaire et après donc les santé des dans le petit village où on a été au Canada, les taux de cancer sont des taux de cancer faramineux et qu'on voit nulle part ailleurs au Canada. Et ces gens ont en même temps comme seul employeur les compagnies pétrolières. Et je crois que c'est un peu malheureusement la complexité dans laquelle se trouvent les gens, ou en tout cas se trouvaient les gens quand je les avais vus à Lago Agrio, c'est-à-dire demander réparation contre ceux qui ont pollué, ceux qui ont tué, ceux qui ont contaminé, mais aussi demander des postes de vigie dans les entreprises, des postes pour sa famille, parce qu'il faut aussi travailler.
Une réaction, Sophie Tardy-Joubert ?
Oui, non, ça me rappelle quelque chose, que quand j'étais allée à Lago Agrio, moi j'avais aussi rencontré une famille notamment qui m'expliquait qu'ils vivaient très près d'un puits, en fait, donc c'est les endroits les plus contaminés. Et ils disaient, on ne peut pas partir parce que qui voudrait acheter notre maison aujourd'hui ? Donc voilà, on est pieds et poings liés, on est là.
Oui, c'est la double peine, finalement, la condamnation suprême, j'ai envie de dire. Avant de vous donner la parole, Pablo Faraldo, je vais vous faire écouter ce petit document sonore. C'est la voix de quelqu'un que vous connaissez. C'est votre ami Hermenegildo Crillo, représentant aujourd'hui du peuple Sekopai. Il avait 6 ans à l'arrivée de Texaco en Amazonie. Et voici ce qu'il disait le 24 mars 2008 sur France Inter.
Je suis la personne qui a commencé le premier procès contre Texaco en 1993. Je continue aujourd'hui avec l'appui de plusieurs institutions. Je vais faire encore plus de pression et je crois que nous allons gagner car nous en sommes à la fin du procès. Je ne veux pas abandonner à la moitié du chemin. Il faut aller jusqu'au bout, attendre le résultat, car sinon les gens vont continuer à mourir de cancer. Il faut aussi obtenir que soit nettoyé tout l'environnement contaminé.
Pablo Faraldo, et puis justement ça recoupe un peu la question à laquelle vous pourrez répondre, la question de Simon Roger.
Alors,
on a entendu effectivement Hermenegildo Crillo, c'est quelqu'un qui vient de Skofan, et c'est des peuples qui ont beaucoup souffert, hein. Deux de ses enfants sont morts quand ils étaient enfants. Et une chose encore incroyable par rapport à cette lutte, c'est d'avoir la capacité d'avoir été unis pendant 25 ans différents peuples indigènes, les Quechua, les Guarani, etc., et tous les paysans, bien sûr. Hein. Donc on est des peuples indigènes très différents et on a réussi à rester ensemble et unis. Et c'est difficile, hein, dans d'autres circonstances, de faire que les gens s'unissent. Et ce sont des peuples différents, mais on est unis par cette lutte. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister, parce que c'est pas facile d'obtenir cette union. On a fait un véritable effort pour laisser de côté les intérêts particuliers, pour mettre en avant l'intérêt commun et collectif. C'est vrai qu'il y a toujours, partout, des endroits, des points de désaccord, on va dire. Mais je dirais qu'on a aussi réussi à vraiment avoir des organisations sociales qui fonctionnent.
Est-ce que Pablo a répondu à votre question, Simon ?
Pas tout à fait, mais comment on arrive à concilier, voilà, ce qu'on parlait ensemble de la double peine, enfin bon, à la fois ces familles qui sont contaminées dans leur chair, avec beaucoup de gens malades, qui sont soignés, parfois qui meurent, et l'obligation de rester sur place, on en parlait aussi avec Sophie.
La contrainte économique.
Et la contrainte économique de continuer à travailler.
Une chose intéressante ici, je dis toujours, il y a des victimes, mais il y a des victimes qui ne cesseront jamais d'être des victimes. Mais il y a des victimes qui, quelquefois, se lèvent et disent « Je ne veux plus être une victime, je ne veux plus continuer à être une victime, je vais me lever et je vais me battre. » Et c'est ce qui se passe dans notre cas, c'est-à-dire que ces peuples indigènes ont été des victimes et peut-être effectivement doublement victimes, hein, aussi en raison des diffamations que leur avait fait subir Chevron, mais ils ne sont plus vraiment victimes aujourd'hui parce qu'ils se sont levés et ils sont sortis en fait de cette domination en défendant leurs droits et en se levant et en disant voilà, je suis là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pas les gens qui disent aidez-nous d'autre temps, ils disent seulement venez nous rejoindre à lutter. Hein. Ils disent, et ça me paraît un peu différent de dire nous sommes et les peuples sont conscients, c'est-à-dire qu'il nous faut arriver à faire que d'autres gens s'unissent à nous. C'est pour ça qu'il y avait les peuples Sarayaku dont on parlait tout à l'heure. Depuis l'âge de 14 ans, il se bat contre les compagnies pétrolières. Et il y a des gens qui arrêtent de se plaindre, de pleurer et qui se mettent à se battre. Et c'est ce qui se passe dans cette région de l'Équateur.
Si j'ai bien compris aussi cette histoire, mais vous n'en parlez pas, peut-être par pudeur, hein, Pablo Farrardo. Il y a aussi le cas de ces femmes indiennes qui ont été réduites à l'esclavage, la prostitution, tout simplement, par les personnes de la compagnie, ceux qui travaillaient sur ces terres pétrolières.
Si, son cosa también, a veces que las mismas compañeras también se resisten que hablen de su historia.
Oui, hein, je crois que nos compagnes également ont un peu de mal à en parler parce qu'effectivement elles se sentent un peu honteuses. Mais l'histoire la plus connue, c'est sans doute celle de Marina Aguinda, qui est Fan et qui est toujours vivante. Son époux était un chaman et on va dire qu'il a été littéralement assassiné en le faisant boire, hein, et puis sa femme a été prise et contrainte à se prostituer. Mais ce n'est pas le seul cas. Hein. Dans ce même le peuple Kofan, je connais aujourd'hui en fait 4 adultes qui sont nés de viol. Il y a une étude qui s'appelle, il y a un livre publié qui s'appelle Las palabras de la selva, c'est-à-dire les mots de la forêt, les mots de la jungle. Et il y a un médecin qui venait d'Espagne qui avait fait des recherches et il avait vu là que les femmes qui étaient en Équateur au moment où Texaco exploitait le pétrole, au moins 10 personnes avaient été victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Et les statistiques globales au monde, quand il y a une guerre, les femmes sont l'objet de agressions sexuelles ou de viols à 20%. Donc ici, c'est déjà 10% hein, des femmes, des populations indigènes en raison des gens qui étaient chez Chevron. Évidemment, ce sont des crimes contre la dignité des femmes. Et là non plus, il n'y a pas eu de reconnaissance de ces crimes-là.
Et toutes ces questions sont au cœur des procès?
Si, todas esas cosas están ahí. La hemos reclamado.
Oui, tout est là. Ça fait partie des choses que nous avons dénoncées comme des délits. Le temps a passé, il y a des prescriptions. Enfin, on dit toujours que la condamnation qui a été prononcée contre Chevron de 9 500 $, c'était des dommages et intérêts, mais c'est pas de l'argent en fait. C'est pas quelque chose qui doit être une indemnisation, on veut une réparation des dommages, vraiment. Et il y a des dommages qui sont irréparables. Hein. C'est ce qu'on dit, effectivement, comment on répare les délits contre la culture indigène. Ces agressions sexuelles que les femmes ont subies, comment est-ce qu'on les comptabilise hein? Comment est-ce qu'on les répare? Les extinctions de certaines espèces de la faune ou de la flore, alors, comment on répare ça? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dommages qui sont irréparables.
Eh oui, avec 9,5 milliards de réparations, il y a des choses qu'on ne répare pas. Sophie Tardy-Joubert et puis Simon Roger juste après.
En fait, Pablo racontait là l'histoire de Marina, la femme du chaman Guillermo. Nous, dans la bande dessinée, on a effectivement choisi de raconter l'histoire de Guillermo qui a été effectivement empoisonné avec de l'alcool par les pétroliers parce que c'était une des voix critiques de l'époque. C'était un des principaux opposants à l'industrie pétrolière. Et effectivement, moi, quand j'étais dans la région de Lago Agrio, on m'avait raconté, enfin, plusieurs personnes m'ont raconté l'histoire de cette femme, donc de la femme du chaman qui avait été enlevée comme prostituée et qui a été abusée pendant des années, enfin, visiblement vraiment 10 ou 20 ans. Elle aurait été enlevée et elle aurait été emmenée dans le camp des pétroliers, dans la ville fortifiée de Texaco. Et ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il l'avait ramenée une fois qu'elle était vieille et qu'en gros, elle pouvait plus servir à grand chose et qu'il l'aurait ramené dans sa communauté en hélicoptère. Et je trouve, enfin, cette histoire en fait est tellement folle que j'ai pas osé la raconter parce que j'avais pas assez d'éléments. Et comme dit Pablo, c'était il y a des années. Et voilà, c'est des histoires qu'on raconte de bouche à oreille, mais il y avait pas grand chose pour l'étayer. Mais c'est une histoire effectivement très marquante.
Simon Roger.
Ce que racontent Pablo et Sophie, et ce qu'on ressent aussi dans la BD, c'est l'arrivée de ces activités extractives, pétrolières, minières, donc de ces grosses activités industrielles, a aussi malheureusement souvent pour conséquence, et je crois qu'on pourrait transférer de l'Équateur à d'autres régions du monde, un phénomène à la fois de déstructuration des familles, d'arrivée de la violence. Je crois qu'on parle dans la BD de la violence de ces villes, qui sont loin d'être des villes tranquilles. Beaucoup de gens se baladent avec des armes à feu, etc. Et quand on y va comme touriste ou comme journaliste, on reste pas trop trop longtemps le soir dans les rues. Donc il y a aussi, au-delà de malheureusement cette dimension déjà dramatique, qui est la destruction de l'environnement ou la contamination pérenne de l'environnement, il y a aussi cette dimension-là. Je voulais juste poser une question à Pablo sur un élément qu'il a évoqué tout à l'heure, en disant, je crois que en insistant sur le fait que le procès que mène Pablo et les 30 000 personnes derrière, c'est un procès pas contre Chevron, mais contre un système qui détruit, qui détériore durablement la planète.
L'impunité des multinationales, voilà. Telle qu'il le disait.
Alors,
tout à l'heure.
Je vais faire un parallèle, mais parce qu'il se trouve que l'actualité de ces derniers jours nous ramène à ça. Il y a là, en quelques mois, deux procès et deux procès perdus par Monsanto. Donc on parle plus de pétrole, mais on parle d'une activité agroalimentaire qui est mondiale, mondialisée. Donc deux procès perdus par cette entreprise. Est-ce que ça, contre des plaignants qui mettent en cause la toxicité des produits et donc la responsabilité de l'entreprise, est-ce que ces procès, donc là perdus récemment, même si l'entreprise fait appel, ça inspire quelque chose, un espoir, ou en tout cas une réaction de Pablo sur le combat que lui et tout son collectif mènent actuellement?
Oui, tout à fait. Hein, le cas comme le cas Monsanto donne de l'espérance. Enfin, ces deux procès et ça nous donne un peu plus confiance en la justice. Mais il y a aussi d'autres cas en fait. Hein, le Caso Vertacacha à Honduras. Il y a eu Vale au Brésil. Deux autres désastres écologiques miniers. Et on doit se souvenir aussi Shell au Nigeria. Il y a beaucoup en fait hein, de cas où les multinationales dans le monde entier, hein, ou Prestige en Espagne, hein, et donc on condamne le capitaine du bateau, mais on ne condamne pas en fait le responsable de l'entreprise pétrolifère. Hein, donc il y a beaucoup de gens qui voilà sont des victimes de ces crimes des multinationales. Il n'y a pas de justice en fait quand quelque part, la multinationale rend des dommages à la nature. C'est-à-dire, ce qu'on dit nous, c'est que il faut qu'on fasse l'effort pour que la justice, en fait, on sait à quel point c'est complexe, on sait qu'il y a des risques, mais on croit vraiment qu'il faut essayer de lutter pour ça, pour que cette justice contre les multinationales existe.
Et pour lutter pour cette justice, vous avez obtenu des soutiens, Pablo Faraldo, des journalistes qui se sont emparés de l'affaire, Vanity Fair, Le Monde et puis d'autres, des personnalités aussi, Brad Pitt, Angelina Jolie, Sting et sa femme Trudy, se sont engagés pour la cause et donné une résonance médiatique. Je vous propose d'écouter notre choix musical, justement pour vous, Sting, qui chante, alors je vais le dire à la française, Fragile. Vous la connaissez cette chanson?
Bueno, la escucho alguna vez, pero...
Oui, je l'ai entendue quelques fois.
Eh bien, on va l'écouter. Et c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à l'affaire Texaco Chevron contre Pablo Faraldo et son collectif, les 30 000 personnes qui sont derrière lui, le petit avocat équatorien contre la multinationale du pétrole et donc ce défenseur de l'environnement qui ne lâche rien. C'est l'un des plus gros scandales environnementaux au monde et avec nous pour en parler, Pablo Faraldo, la journaliste Sophie Tardy-Joubert, tous deux auteurs avec Damien Roudeau de la bande dessinée Texaco et pourtant Nous vaincrons, tout juste donc édité aux arènes. Et avec nous également Simon Roger, rédacteur en chef des pages Planète Science du journal Le Monde. Mais avant de reprendre notre discussion, place tout de suite à notre revue d'info environnement. Et on commence par l'interdiction du glyphosate au Vietnam. Par le biais de son directeur du département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le Vietnam a déclaré que l'importation et le commerce transnational d'herbicides contenant du glyphosate seraient dorénavant interdits avec effet immédiat. C'est une décision prise une semaine après le verdict d'un jury fédéral californien concluant que l'herbicide Roundup de Monsanto était probablement un facteur substantiel de la cause cause du cancer chez l'homme. Bientôt au cinéma, le dernier film du réalisateur Fernando Solanas, Le grain est livré, un film qui porte un regard sur les conséquences économiques, sociales et humaines de l'agriculture intensive en Argentine, une agriculture transgénique et usant là aussi d'intrants chimiques, responsable d'exode rural, de déforestation, de destruction des sols, de maladies telles que des cancers et des malformations chez des nouveau-nés. Ce film à hauteur d'homme montre aussi les alternatives à ce modèle agricole et les solutions pour reconquérir et préserver la nature. Il est à voir au cinéma en France à partir du 10 avril. Et qui remporte la palme du mois de notre sélection, difficile de ne pas remettre cette palme à 5 groupes pétroliers, ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total, qui depuis la COP21 fin 2015 auraient dépensé 1 milliard de dollars en lobbying et relations publiques contraires aux conclusions de l'accord de Paris sur le climat. C'est à découvrir le rapport de l'ONG britannique Influence Map sur le site de Novetic avec l'AFP. Et le plus de la semaine revient au Parlement européen qui a entériné l'interdiction du plastique à usage unique dans l'Union européenne à compter de 2021. Alors ce qui n'empêche pas bien sûr les citoyens d'agir plus tôt s'ils le souhaitent.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Est-ce que les uns les autres, vous voulez réagir à l'une de ces informations, concrètement? Alors, il y a forcément les pétroliers qui dépensent de l'argent, hein, Pablo Faraldo, pour essayer de promouvoir les énergies fossiles, hein, toujours.
Ouais, c'est un autre thème, non? Le niveau de lobby qu'ont les entreprises.
Ouais, para... c'est incroyable, le niveau de lobbying que les entreprises déploient pour convaincre les gouvernements, les moyens de communication. Et pour Chevron, de 2006 à 2013, ils avaient dépensé plus de 100 milliards de dollars en lobbying aux États-Unis pour dire aux différentes entreprises américaines qu'elles ne devaient plus travailler avec l'Équateur. Donc, ce que vous venez de dire hein, par rapport à la COP21, c'est juste incroyable de voir comment ces industries en fait qui polluent financent aussi ces sommets sur le climat. Comment c'est possible, hein? Comment est-ce qu'ils peuvent commettre des crimes contre l'environnement et donc financer les grandes réunions internationales sur le climat? Ça ne devrait pas exister, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et évidemment, il y a encore bien d'autres choses. Hein. Encore, voilà. Après, il y a toutes les compagnies pharmaceutiques qui font aussi du lobby et je le dis toujours, des investissements en fait, hein, y compris dans les universités en fait. Hein. Mais souvent, elles font des recherches en fait, hein, évidemment, qui conviennent à ceux qui ont financer ces recherches. Donc évidemment, il faut arriver. Donc il y a une espèce de collusion comme ça, enfin diverses collusions dans notre système. Pareil aux Nations Unies, il y a tout un système qui protège en fait les multinationales et qui laisse les peuples sans défense.
Simon Roger.
Ça va m'être compliqué évidemment de saluer ou de féliciter les 5 majors du pétrole pour leur activité de lobbying, mais juste ça m'inspire une réflexion. On est à un moment en Europe, peut-être d'ailleurs aussi en Amérique du Sud, de mobilisation sur le climat. Donc la COP21 a été un des éléments un peu de cristallisation de cette mobilisation. On est en Europe à un moment où maintenant c'est aussi la jeunesse qui se mobilise, qui descend dans la rue, qui fait des grèves scolaires. Est-ce que cette mobilisation-là peut d'une manière ou d'une autre servir la cause entre guillemets que défend le collectif de Pablo, sachant que le climat, ou plutôt les majors du pétrole dont on parle, sont parmi les principaux pollueurs et acteurs du dérèglement climatique.
Si, yo pienso que...
Je l'ai dit hier ou avant-hier, hein, les solutions mondiales qu'on peut attendre ne viendront pas des leaders ou des leaders d'opinion de n'importe où dans le monde. Hein. Ça viendra en fait de la base, ça viendra des peuples, ça viendra des paysans. Et c'est ces mouvements-là en fait hein, qui vont initier les changements dont
nous avons besoin. Ce qui se passe ici en France, c'est quelque chose d'intéressant, mais il y a une chose que je dois dire, mais s'il vous plaît, prenez-le bien. Les gens cherchent toujours que le système réponde à ses demandes, à ses besoins. Voilà, donc l'égalité, le droit à l'alimentation, et donc le système, en fait, il se referme, il donne jamais de réponse, ce qui fait que le système, il exclut une bonne partie de la population, et cette population exclue, qui ne trouve plus de réponse dans le système, finalement, elle se retrouve obligée d'agir en dehors du système, et de là sortent des groupes subversifs, très souvent. Et c'est le système qui est responsable de la création de ces réactions qui peuvent être violentes, hein, dans beaucoup de secteurs. Mais c'est le système qui crée ça parce qu'il n'est pas capable de répondre aux problèmes de la société et de l'humanité. Et ça, ça se passe en Europe, en Amérique latine et partout dans le monde.
D'où ces questions qui se posent de plus en plus aujourd'hui, hein, dans la société civile, celle de repenser le système. On sent qu'il y a là quelque chose aussi en gestation. Pablo Faraldo, en 2007, vous obtenez le prix CNN Hero. En 2008, le prix Goldman, qui est le Nobel de l'environnement. Alors, je précise qu'en 2003, donc vous êtes diplômé avocat. Vous n'étiez pas programmé pour être avocat. Votre parcours est un parcours incroyable. C'est à 14 ans donc que vous arrivez avec vos deux frères dans cette zone d'Amazonie. Racontez-nous un petit peu ce parcours, mais qui dit aussi beaucoup de votre connaissance du terrain, des peuples, et ce que vous faites, c'est-à-dire le fer de lance que vous êtes devenu dans ce combat. Pas pour rien en tout cas.
Alors, c'est compliqué de parler, hein. Je suis pas née en Amazonie, je suis née sur la côte de l'Équateur, et bon, on ne choisit pas où on est, malheureusement. Je suis arrivée donc en Amazonie, j'avais 14 ans, et j'ai immédiatement commencé, en fait, hein, dans une entreprise, voilà, comme le font les enfants. Mais je travaillais aussi sur la partie social avec les communautés. Je voyais les problèmes qui étaient là, hein, pour les peuples indigènes. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le village, on a créé un comité qu'on a appelé comité de défense des droits de l'homme, hein, Chouchoufini. Et j'avais 16 ans à ce moment-là, et ils m'ont nommé président de ce collectif. Hein. Voilà, c'était un enfant en fait qui dirigeait un comité pour les droits de l'homme. Je ne sais pas vraiment ce que je faisais là, mais j'étais là. Donc, effectivement, avec cette responsabilité-là, je suis allée dans différentes communautés, voir ce qui se passait, les problèmes des femmes, des gens, et on disait toujours, voilà, il faut que vous trouviez un avocat qui vous aide, trouvez un avocat qui vous aide, et évidemment, il n'y avait pas d'avocat dans notre peuple, parce que les rares avocats qu'il y avait travaillaient pour le gouvernement ou pour les grandes entreprises, hein. Et je me suis dit, ben voilà, je vais étudier pour être avocat, et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais voilà, venait ensuite le problème de l'argent, et donc les prêtres en fait, voilà, m'ont donné des bourses en fait, hein, voilà, que je recevais tous les 6 mois, qui venaient d'Espagne, et puis les différentes communautés, voilà, me permettaient de vivre en fait, me logeaient, me nourrissaient. Donc on va dire que effectivement il y a là, maintenant, pour moi, quelque part, un double engagement, hein, parce que ces gens-là non plus n'ont pas pu faire d'études, bien sûr. Et avant d'être avocat, je travaillais sur ces cas-là, sur toutes ces questions. Et puis, une fois que j'ai eu mon diplôme, bah, j'ai continué, parce que c'était un peu complexe, bien sûr, parce que en face de moi, il y avait au moins 50 avocats de Chevron, et ils avaient tous 30 années d'expérience, hein. Et moi, j'étais face à ces gens-là avec juste une toute petite année d'expérience, mais je venais bien sûr accompagnée de mes milliers de compagnons qui étaient paysans ou peuples indigènes. Voilà, moi j'avais aussi travaillé à Texaco, j'avais vu les problèmes de l'intérieur. Il n'y avait pas besoin de me raconter cette histoire, je la connaissais et j'en faisais partie. Et les gens disaient non, mais c'était pas comme ça. Mais moi, je vis dans cette zone, donc c'est des faits qui, d'une certaine manière, m'ont donné certains avantages hein, par rapport à cette armée d'avocats qu'avait Chevron. Et puis, après, j'ai continué. Et c'est pas moi qui décide tout seul. Les communautés décident. Mais c'est vraiment eux, en fait, oui.
Donc c'est vraiment l'aventure d'un enfant issu d'une famille pauvre, hein, le cinquième de 10 enfants, ce besoin de partir tôt, de partir à 14 ans avec ses deux frères, de travailler. Et puis vous devenez cet avocat à force de cours, suivi le soir et avec le soutien notamment de ses pères franciscains et puis de personnes autour de vous. Et aujourd'hui donc, l'avocat qui s'oppose quand même au pot de fer, hein, le pot de terre contre le pot de fer. Il y a quand même une question. On sait que ces parcours sont longs, ça fait 25 ans, Pablo Faraldo. Beaucoup d'argent. Comment vous faites financièrement?
Non, aquí digo, también otras cosas interesantes, ¿no? Evidentemente, la cuestión judicial requiere
mucho. La question judiciaire, bien sûr, coûte cher. Mais aujourd'hui, on a des aides. Et dans notre cas, les peuples indigènes et paysans nous aident. On n'a pas de salaire, hein, mais on partage en fait l'argent disponible. Et c'est une question intéressante parce que Chevron a essayé de bloquer en fait tout l'argent qui pourrait nous arriver en 2013-2014 hein, en pensant que de cette manière-là, on allait arrêter de lutter. Mais en fait, ça a à voir avec la conviction et l'engagement. Hein. C'est-à-dire que on retrouve aussi il y a les avocats qui luttent pour nous, ont besoin d'argent, mais quelquefois, on trouve des accords et puis Chevron est condamné, donc du coup on arrive à leur donner de l'argent, mais nous on n'en a pas. En fait, on n'a pas de salaire et c'est quelque chose de très significatif. Hein. Alberto a dit, on n'a jamais eu d'argent, et le fait de ne pas en avoir aujourd'hui n'est pas un problème, hein, parce que effectivement on n'a jamais été riche, mais tout ce qu'on a ici dans la forêt, dans la jungle, ça a beaucoup beaucoup de valeur.
Aujourd'hui, il y a quand même un état des lieux qu'il faut rappeler. Sur le terrain, les peuples autochtones, comme au Brésil notamment, sont souvent victimes de menaces et d'agressions. Et c'est en Amérique latine justement que l'on compte 60% des assassinats visant des défenseurs de l'environnement. Est-ce que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas là un rôle à jouer ?
Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos, los gobiernos.
Je crois que ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les gouvernements aussi ont vraiment des responsabilités par rapport au peuple indigène. C'est aussi quelque chose de neuf, hein, et c'est quelque chose qui est vrai pas seulement dans le Cône Sud, mais partout. C'est-à-dire que les organismes supranationaux, ils obéissent également à des systèmes économiques. Je me souviens de Donald Trump qui a dit on va arrêter d'investir ici, mais bon, ça lui est complètement égal en fait. Et je pense moi que la responsabilité de ces organismes envers les peuples indigènes est énorme. Malheureusement, dans le cas de l'Amérique latine, dans le cas de l'Amazonie, hein, qui regroupe 9 pays, malheureusement pour les peuples, c'est un territoire dont le sous-sol est extrêmement riche. Donc, ce qui fait de ces gens des doubles victimes, hein, évidemment, puisque l'énergie du sous-sol intéresse les multinationales. Elle n'intéresse pas les peuples indigènes, donc il y a toujours une lutte et ces gens effectivement se battent pour leurs droits et les multinationales se battent pour le droit d'exploiter ce sous-sol. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire parce que on doit réfléchir à ce que signifie l'Amazonie pour le monde, c'est-à-dire que serait la planète sans l'Amazonie, hein. Donc défendre les peuples indigènes, c'est pas seulement défendre l'Amazonie qui appartient à ces 9 pays au peuple indigène, l'Amazonie, c'est défendre un endroit qui a une importance énorme pour toute la planète.
L'Amazonie, le poumon vert. Merci à tous, Pablo Faraldo, la BD superbe de bout en bout commise avec Sophie Tardy-Joubert. Merci à vous. vous. Et il faut rappeler Damien Roudot, Texaco est pourtant nouveau un cran, édité aux arènes, album indispensable hein, pour ne plus dire qu'on ne savait pas. Simon Roger, les articles relatifs à cette affaire et ceux sur l'Amazonie, l'environnement, tout est retrouvé sur le site lemonde.fr et tous les jours bien sûr dans les pages Planète Science du journal Le Monde et via notre site également. Merci Pascal Fougère et je rappelle que pour tous ceux qui voudraient plus d'informations, bibliographie, les liens, la revue de web environnement, les plus les moins de la semaine, et bien tout se trouve sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute de l'émission à votre disposition. Et puis vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. Samedi prochain, de la mode jetable à la mode éthique, quelles sont les victimes de la fast fashion? Nous serons avec Majdouline Sbahi et Dominique Cardon. Mais pour l'heure, suite de vos programmes sur France Culture, restez à l'écoute avec les fictions à savourer.